Alors confions cette catéchèse d'aujourd'hui à celle qui est au ciel avec son âme, mais aussi avec son corps. La Vierge Marie, Notre-Dame de l'Assomption, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous avons vu que la résurrection du Christ est le cœur, le centre de notre foi chrétienne. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi, vide aussi notre prédication. Et comme dit saint Paul, la résurrection du Christ, je vais suivre un peu le catéchisme de l'Église catholique, c'est aussi bien sûr l'accomplissement des promesses de Dieu faites dans la Sainte Écriture mystérieusement, mais c'était déjà là. Alors il y avait des courants, par exemple, du temps du Christ, les pharisiens, puis les sadducéens, tous ne croyaient pas en la résurrection, mais il y avait bien sûr cette foi naturelle de l'homme en l'immortalité de l'âme. La résurrection est différente de l'immortalité de l'âme. L'immortalité de l'âme, c'est de penser ou de croire que notre âme subsiste au-delà de la mort. En raison de la nature spirituelle de notre âme, il est naturel, c'est-à-dire même en dehors de l'apport de la révélation divine, il est naturel de penser que, de par notre nature spirituelle, nous sommes esprit et corps, bien sûr. Mais il y a quelque chose en nous qui transcende naturellement la mort. Et lorsque vous interrogez tout le monde, que les personnes aient la foi ou pas, est-ce que vous croyez en l'au-delà, on va dire ? C'est-à-dire, est-ce que tu crois, est-ce que tu penses que toi, ta personne, va continuer à vivre après ta mort ? Alors, il y a les gens qui vont dire, non, tout s'arrête. Bon, si tout s'arrête, mangeons et buvons, car demain nous mourrons, dit saint Paul. Et puis, pourquoi se marier ? Pourquoi avoir des enfants si tout s'arrête? Tout est absurde, vous comprenez que tout est absurde. Si tout s'arrête à la mort, nous sommes dans un monde, une réalité, une vie. Tout est absurde. Si tout s'arrête à la mort. Mais il y a comme cette espèce de... Oui, de bon sens naturel, j'allais dire. Chaque être humain se dit « non, c'est pas possible ». C'est pas possible que tout s'arrête à la mort. Il y a quelque chose en moi qui transcende, qui dépasse, qui va au-delà de cet événement qu'on appelle la mort et qui est la séparation de l'âme et du corps. Ça, c'est l'immortalité de l'âme. Alors qu'on ait la foi chrétienne ou pas, tout homme, toute femme qui réfléchit un peu pourrait avoir accès à cette réalité et se dire « non, moi, de par la nature spirituelle, de ma personne humaine, eh bien, je pense que l'immortalité de l'âme doit être posée comme une réalité profonde, vraie, naturelle. Et puis, il y a la foi, c'est-à-dire ce que nous apporte la révélation divine, à laquelle nous répondons par la foi, c'est-à-dire qu'il nous est révélé. Il y a des choses comme ça qui sont naturellement accessibles à la raison et que la foi vient confirmer et nous emmener beaucoup plus loin. On dit, mais oui, tu as bien raison de penser que ton âme est immortelle. Nous croyons aussi par la foi que notre âme est immortelle. C'est magnifique. Frères et sœurs, rien que ça, avant même le mystère de la résurrection, ça vient balayer tellement de choses par rapport à la peur de la mort, vous voyez. On est dans un monde déchristianisé, et donc forcément, lorsque une société se déchristianise, la mort, la peur de la mort, tout ce qui enveloppe la mort, prend des proportions mais impressionnantes. Pourquoi ? Parce que la foi en la résurrection, la victoire de Jésus sur la mort, eh bien, elle est moins enracinée, moins forte, moins présente, Et du coup, oui, la mort fait peur. La mort fait faire plein de décisions qu'on n'aurait pas prises si on n'avait pas la foi, si on avait la foi chrétienne. Cette lumière de Jésus ressuscité qui vient nous emporter dans une espérance inébranlable. Mais encore une fois, nous croyons en amont de la résurrection, il y a cette réalité de l'immortalité de l'âme. Et du coup, si l'âme est immortelle, qu'adviendra-t-il de nous au jugement particulier, au soir de notre vie? Bon, ce n'est pas le sujet du jour, mais vous comprenez que dire, ben, si on va traverser finalement la mort, eh bien, au soir de notre vie, qu'est-ce qui se passe? C'est une question que tout être humain devrait se poser. Alors, il y a toutes ces questions essentielles. C'est ça l'essentiel. Qu'est-ce que je vais faire pour l'éternité? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie éternelle? Et du coup, en fonction de ce que je veux faire pour toujours, eh bien, je vais me dire, bon ben, j'ai un peu de temps qui m'est donné ici-bas pour commencer. Pour commencer à vivre en régime de vie éternelle. Si je perçois que je suis fait pour le ciel, pour la béatitude, pour le paradis, pour la communion avec Dieu, pour l'alliance avec Dieu, eh bien, je vais me dire, ben, je commence maintenant. Alors, oui, la résurrection du Christ est accomplissement des promesses. Dieu a promis. Il a parlé. Il a inscrit cette foi et cette espérance dans le cœur du peuple d'Israël. Alors Jésus accomplit les promesses de l'Ancien Testament. La résurrection, c'est la manifestation de la vérité aussi de la divinité de Jésus. Jésus est vraiment Dieu. Car si l'œuvre de la résurrection du Christ est l'œuvre de la Trinité sainte tout entière, le Père ressuscite son Fils, mais le Fils étant le Fils éternel, il se ressuscite lui-même, l'Esprit Saint aussi. Les trois personnes divines sont impliquées dans la résurrection de Jésus. C'est donc une manifestation de la divinité de Jésus et de la puissance de Dieu. Ah oui, ben c'est sûr. Encore une fois, déjà pour Lazare, il fallait une certaine puissance divine, si vous voulez, pour qu'il revienne à la vie. Là, pour que Jésus ressuscite, pour que Jésus soit ressuscité, il faut une puissance divine qui soit manifeste. C'est le cas. Dieu est puissant. C'est une puissance d'amour. Nous avons besoin de cette manifestation de la puissance de Dieu amour. Car si Dieu n'était que puissant, tout puissant, mais qu'il n'était pas aussi amour, bonté, alors on dirait, certes, t'es puissant, mais j'ai un peu peur de toi quand même. Parce que je suis pas sûr que tu sois 100% amour, 100% bonté, mais t'es puissant, oui. Ouh, on le craindrait, on aurait peur de lui. Ah, si Dieu n'était que tout, que amour et bonté, mais pas forcément tout puissant, on dirait, oui, c'est bien, tu m'aimes bien, mais est-ce que tu es puissant, tout puissant aussi? Puisque j'aimerais bien que ton amour s'exerce dans une toute puissance. Ce serait bien, par exemple, pour me ressusciter, pour me pardonner. Mais la merveille, c'est que Dieu est tout-puissant et qu'il est 100% bonté et amour, et que les deux vont merveilleusement bien ensemble. La toute-puissance de Dieu est ordonnée à son amour. Et c'est son amour infini pour nous qui se manifeste dans la résurrection de Jésus. Bien sûr, c'est l'amour du Père pour son Fils, mais c'est aussi l'amour de Dieu tout entier, Père, Fils et Saint-Esprit, qui se manifeste pour nous. La mort de Jésus est une mort au péché. Jésus vainc le péché. Et par sa résurrection, il nous donne accès à la vie éternelle. La mort est vaincu. Magnifique. Alors la mort est vaincue, la mort physique bien sûr, mais aussi la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est le péché, la mort spirituelle. Jésus est mort et ressuscité. Et la résurrection du Christ aussi, c'est la source, le principe de notre propre résurrection future. Le Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui se sont endormis, dit l'Écriture. Saint Paul aux Corinthiens 1,15. De même que tous meurent en Adam, c'est fou, on est tous morts en Adam. Tous aussi revivront dans le Christ. Nous sommes passés de Adam au nouvel Adam, le Christ, l'homme céleste, comme dit saint Paul. C'est merveilleux. Il faut comprendre et entendre ça pour notre vie, frères et sœurs. Je ne vis plus ma vie à partir de mon premier papa Adam. Non. Celui-ci ne m'engendre plus et je ne veux plus être engendré par lui. C'est clair? Comprenez ça? Mais ma vie d'aujourd'hui, notre vie d'aujourd'hui, frères et sœurs, nous voulons nous laisser engendrer par le nouvel Adam, l'homme céleste, le Christ ressuscité. Chut, changement. Il y a un changement qui s'opère. Car ce qui vient d'Adam donne la mort. Ce qui vient du Christ donne la vie. Alors Jésus est le premier ressuscité, le prémisse. C'est le premier né d'entre les morts, c'est-à-dire le premier ressuscité. Il entraîne à sa suite Marie dans le mystère de son Assomption et il nous entraîne tous. À sa suite, il est le principe, la source, il est le premier. Et c'est de sa sève, c'est de la sève de Jésus ressuscité, nouvel Adam, l'homme céleste, que nous recevons la vie. De sorte que lorsque saint Paul dit « Nous avons été ensevelis avec le Christ par le baptême dans la mort, afin que comme le Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, nous vivions aussi, nous aussi, dans une vie nouvelle. » Je le redis, frères et sœurs, il faut couper les robinets de tout ce qui vient d'Adam. Il faut ouvrir les vannes de tout ce qui vient du nouvel Adam. C'est merveilleux. On va voir que on va vivre l'accomplissement. On va vivre la vie nouvelle. Ah, on va enfin vivre du ciel sur la terre. Le Seigneur ne va pas supprimer notre nature humaine, il va venir sanctifier notre personne humaine, il vient venir nous élever, nous purifier, nous accompagner, nous sanctifier, nous diviniser. Voilà ce qu'Adam ne pouvait pas faire. Il aurait dû, Adam, nous accompagner dans cette vie divine qui devait se transmettre de génération en génération, péché personnel, péché originel, c'est-à-dire comme Adam et Ève étaient têtes, avec une grâce capitale, ce qu'ils vivaient avec Dieu devait se transmettre de génération en génération, mais voilà que par le péché personnel, et qui est un péché originel, c'est-à-dire qui touche la nature humaine, voilà que notre nature humaine est contaminée. Et Ève, la mère des vivants, elle va enfanter pour la mort. Alors il faut le nouvel Adam, qui va venir plongé dans sa mort, qui est une mort au péché. Il a pris nos péchés sur lui, et c'est nos trahisons, nos reniements. Il y avait une question d'une auditrice, Catherine, je crois, qui dit « Mais comment est-ce que saint Jean a renié? C'est où dans l'évangile ?» Mais nous tous, nous avons renié, chère Catherine. Sauf Marie, nous avons tous renié le Christ par notre péché, nos reniements. Nous avons tous crucifié le Christ. Nous avons tous participé à la passion du Christ comme pécheurs. Le péché offense Dieu. Alors nous avons tous et nous péchons tous, hormis la Vierge Marie, l'Immaculée. De sorte que c'est nous qui avons crucifié le Christ. Oui, on peut le dire. Nous devons le dire. Pour expérimenter le salut, nous devons reconnaître que nous sommes pécheurs. Sinon, on n'a pas besoin de sauveur, pas besoin de rédempteur. Or, c'est le cas. Alors voilà que Jésus nous plonge dans sa mort et dans sa résurrection. Qu'il est le prémisse, le premier, la source, le premier. Et c'est une source actuelle qui coule de la source jusqu'à nous. Nous recevons, si nous le voulons bien, cette vie nouvelle du Seigneur. De sorte que nous sommes voués à ressusciter. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Nous allons ressusciter, frères et sœurs, au moment que Dieu jugera bon, le jour de la résurrection. Ça va arriver. Nous allons expérimenter la résurrection de la chair. Par le terme « chair », dit le catéchisme au paragraphe 990, eh bien nous désignons l'homme dans sa condition de faiblesse et de mortalité. La résurrection de la chair signifie qu'il n'y aura pas seulement après la mort la vie de l'âme immortelle, je vous en ai parlé, mais que même nos corps mortels reprendront vie. Croire en la résurrection des morts a été dès ses débuts un élément essentiel de la foi chrétienne. 1 Corinthiens 15, vous pouvez tout relire, c'est magnifique. Jésus est la résurrection. Et vous allez me poser la question, comment ça va se passer? Je sens, comment? Qu'est-ce que ressusciter, nous dit le catéchisme au paragraphe 997. Dans la mort, séparation de l'âme et du corps, le corps de l'homme tombe dans la corruption, alors que son âme va à la rencontre de Dieu, tout en demeurant en attente d'être réunie à son corps glorifié. Dieu, dans sa toute-puissance, rendra définitivement la vie incorruptible à nos corps en les unissant à nos âmes par la vertu de la résurrection de Jésus. Ça, c'est de foi catholique. Question : qui ressuscitera ? Écoutez bien. Tous les hommes qui sont morts, ceux qui auront fait le bien, ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal pour la damnation. C'est-à-dire que lorsque nous vivons notre jugement personnel ou particulier, au soir de notre vie, nous paraissons devant le Seigneur dans la foi, non pas dans la vision béatifique, mais dans la foi. Avec la foi est une lumière. Nous aurons suffisamment de lumière pour que notre conscience, comme on dit, l'illumination des consciences, pour que notre conscience, notre cœur et toute notre vie soient éclairées à la lumière de l'amour de Dieu et de notre réponse. C'est le moment le plus important de notre vie. Sainte Mère de Dieu, prie pour nous maintenant. Premier moment le plus important de notre vie, maintenant. Et à l'heure de notre mort. Ce jugement personnel particulier, cette rencontre avec le Seigneur, et sera cette dernière réponse que nous lui ferons et qui va nous ouvrir à l'éternité. Ce dernier choix libre que nous ferons soit de Dieu, soit de pas Dieu, eh bien, va nous conduire dans un état et une vie soit de béatitude, si nous choisissons le Seigneur, soit d'enfer, si nous refusons pour de bon, pour toujours, volontairement, son amour miséricordieux. Vont en enfer ceux qui veulent y aller. Il y a en enfer que des gens qui sont partants pour vivre un monde. La vie qu'ils ont, c'est une vie de damné, c'est-à-dire séparée de la vie de Dieu. Ils sont créatures, ils restent créatures pour toujours, ils n'y peuvent rien, ça les enrage même. Ils sont énervés. Dieu ne peut pas détruire sa créature. Cela irait contre son amour. Il maintient les démons dans l'être. Les démons existent. Les anges existent et tous les êtres humains existent. Les êtres humains depuis leur conception existent. Ils sont. Dieu les fait exister. Alors, ceux qui refusent l'amour de Dieu et son amour miséricordieux pour toujours, ils veulent, ils préfèrent être séparé de Dieu pour toujours, plutôt que d'être avec Dieu pour toujours. C'est ça l'enfer. Et la peine du dent, les damnés, c'est d'être séparé de la vie de Dieu qui est amour et lumière. Alors ils existent, mais leur vie, c'est une vie de révolte, de haine, de violence. C'est une vie infernale qu'ils ont choisie. Alors, ça s'appelle l'enfer. Première peine, c'est la peine du dent. Et alors, les gens qui sont en enfer, eh bien, ils ressusciteront. Pour l'instant, ils ne sont qu'avec leur âme, puisque leur âme est immortelle. Mais ils vont ressusciter, et ils vont vivre dans leur corporité matérielle, ce que leur âme vit, c'est-à-dire une vie infernale, d'enfer. C'est assez moche, c'est laid, c'est affreux. Mais ça va se produire. À l'inverse, tous ceux et celles qui auront choisi Dieu pour toujours, alors ceux qui sont au ciel, ils vont bien, ils sont heureux. Ceux qui sont au purgatoire passent par cette étape intermédiaire de purification, miséricordieuse. Ce sont des âmes du purgatoire. Nous pourrons refaire, si vous voulez, une émission spéciale, une catéchèse spéciale là-dessus. Ça vaut le coup, je pense, de se redire ces choses. Très important de prêcher sur le purgatoire dans ces temps où on pense tous que nous irons tous au paradis, hein ? Après avoir été dans des périodes un peu on ira tous en enfer, maintenant on ira tous au paradis. Bon. Le purgatoire, très important. Mais toutes les âmes du purgatoire, on dit bien les âmes immortelles du purgatoire, sont vouées à aller au ciel quand le moment sera venu et quand leur purification sera terminée. Alors, la résurrection adviendra. Et ceux qui sont avec Dieu expérimenteront cette réunification du corps avec l'âme, mais comme l'âme est avec Dieu, dans la volonté de Dieu qui n'est que bonne et bienfaisante, eh bien le corps humain de ces personnes ne sera que dans la lumière. Ce sera beau, ce sera pile ce qu'il faut, selon Dieu, magnifique. À l'inverse, des corps matériels de ceux qui sont en enfer, tout difforme, vous voyez, tout difforme. Vous prenez la résurrection, Marie par exemple, c'est la seule avec son corps, eh bien c'est le corps de l'Immaculée, si vous voyez. Il n'y a pas plus splendide dans le monde matériel que le corps du Christ. Et celui de Marie, ça n'existe pas. C'est le top du top. Mais nous aussi, frères et sœurs, nos corps ressusciteront. Et si nous choisissons Dieu au soir de notre vie, nous sommes orientés vers cette résurrection magnifique. C'est la résurrection de la chair qui donne le sens du corps humain. C'est le corps du Christ ressuscité. C'est le corps de Marie assomptée qui donne le sens, et c'est le mystère de la résurrection de la chair qui donne le sens de ce que c'est que notre corps humain. C'est le sens ultime, bien sûr. C'est l'ultime qui éclaire ce que nous avons à vivre aujourd'hui dans notre corps, car nous sommes âme et corps. La mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Et tout ce que nous vivons depuis notre conception, c'est toujours âme et corps. Nous existons substantiellement unis, âme et corps. Nous n'existons pas avant. Il n'y a pas de réincarnation. Et nous ne serons pas quelqu'un d'autre après. Nous avons un début et pas de fin. Heureusement, d'ailleurs, moi, j'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre après. Hein. Puis penser comme ça, c'est absurde, vous comprenez? Je n'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre après. C'est pas intelligent. Alors, comment? Après avoir répondu à la question, qui ressuscitera? Vous avez compris, tous. Comment le Christ est ressuscité avec son propre corps? Regardez mes mains, mes pieds, c'est bien moi. On l'a dit, il n'est pas revenu à une vie terrestre. Tous ressusciteront, de même en lui, tous ressusciteront avec leur propre corps qu'ils ont maintenant. C'est le même corps que vous aurez. Mais bien sûr, il n'y aura plus ces limites, il n'y aura plus ces problèmes de régime, il n'y aura plus ces problèmes de poids, ces problèmes de sport. Hein. Faites du sport, mon père. Ah, c'est bon. Ouf. Hein. Mais, dira-t-on, je cite saint Paul, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Insensé, dit saint Paul, oh, ce que tu sèmes, toi, ne reprend vie s'il ne meurt, et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir, mais un grain tout nu. On sème de la corruption, il ressuscite de l'incorruption. Les morts ressusciteront incorruptibles. Il faut en effet que cet être corruptible revête l'incorruptibilité et que cet être mortel revête l'immortalité. Alors ce comment dépasse notre imagination et notre entendement, dit le catéchisme, il n'est accessible que dans la foi. Mais notre participation à l'Eucharistie nous donne déjà un avant-goût de la transfiguration de notre corps par le Christ. C'est un mystère, c'est-à-dire qu'il nous faut, dans cette mentalité scientifique qui est la nôtre, où on veut tout comprendre, comment ça se passe, comment ça fonctionne, allez, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe dans le corps, dans l'âme, etc. Non, non. La foi, c'est l'ignorance du comment. Alors, on est devant le mystère de la puissance aimante de Dieu, je vous l'ai dit. Et en effet, comme dit le catéchisme, nous avons un avant-goût de ce que sera la résurrection de notre propre chair dans notre participation à l'Eucharistie lorsque nous communions au corps et au sang du Christ. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Écoutez ça. Écoutez ça, frères et sœurs. Jean 6, versets 53-58. Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père. De même, celui qui me mange lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel, il n'est pas comme celui que les pères ont mangé, eux ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. D'Eucharistie en Eucharistie, frères et sœurs, le Seigneur fait son œuvre en nous. Et c'est cette vie éternelle qui a déjà commencé, qui pousse et qui va éclore. Non seulement au ciel avant la résurrection, mais qui va éclore jusqu'à la résurrection de la chair. Car il s'agit bel et bien que le corps, que tout le monde matériel, que tout ce qui est spirituel et matériel soit à la gloire du Père. Et non pas à la gloire du démon qui a voulu tout voler. Il a voulu tout voler, il a piqué. Il a piqué la gloire. Et il a voulu qu'on lui rende gloire à lui. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui se font avoir et qui aiment leur propre gloire. Non, non, non. Il faut que tout soit pour la gloire de Dieu, c'est-à-dire la manifestation de son amour. Alors, l'Eucharistie, c'est magnifique parce que c'est vraiment une anticipation. On participe au mystère de la résurrection, on communie à Jésus ressuscité. En vérité, à chaque Eucharistie, on communie à Jésus ressuscité. Alors, comme il est la source et principe de notre propre résurrection, on est déjà en régime de glorification de notre propre chair en participant à la messe. C'est grandiose. L'ultime résurrection de la chair, déjà accomplie bien sûr en Jésus, Fils de Dieu, vrai homme, source et principe de notre propre résurrection, qui embarque Marie avec lui, qui nous embarque avec eux, et qui nous donne, dès ici-bas, d'anticiper, d'entrer déjà dans cette vie en régime de résurrection par la messe, par l'Eucharistie. C'est grandiose, grandiose. Franchement, c'est le vrai corps de Jésus auquel nous communions. Le corps sacramentel, mais de Jésus ressuscité. Alors, quand ? Eh bien, c'est au dernier jour. Au signal donné par la voix de l'archange et la trompette de Dieu, quand le Seigneur lui-même descendra du ciel et les morts qui sont dans le Christ ressusciteront en premier lieu. Alors, frères et sœurs, vous voyez un petit peu que la résurrection du Christ marque le début, les prémices, mais c'est une nouvelle source qui s'ouvre, c'est la source qui s'ouvre. Et nous devons nous laisser embarquer dans cette nouveauté de vie. De sorte que on comprend que le catéchisme après, au paragraphe 1002 et suivant, nous disent « S'il est vrai que le Christ nous ressuscitera au dernier jour, il est vrai aussi que d'une certaine façon, nous sommes déjà ressuscités avec lui. » En effet, grâce à l'Esprit Saint, la vie chrétienne est dès maintenant sur terre une participation à la mort et à la résurrection du Christ, c'est-à-dire mourir à soi-même, mourir à notre volonté propre, mourir à ses envies, à ses convoitises, mourir à tout ce qu'on veut attraper, hein, mourir à, vous voyez, à notre égoïsme, à notre péché. Mourir à ça, on est plongé dans la mort du Christ et dans sa résurrection. Enseveli avec le Christ lors du baptême. Enseveli. Vous en êtes aussi ressuscité avec lui. Parce que vous avez cru en la force de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Du moment donc que vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les choses d'en haut. Là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. Frères et sœurs, si nous sommes dans le royaume de Dieu, déjà, Eh bien, on recherche les choses d'en haut, vous comprenez? Oui, les régimes passent, les civilisations passent, mais tes paroles, Seigneur, ne passent pas. Et si tes paroles sont esprit et elles sont vie, si c'est toi notre roi, alors nous recherchons les réalités d'en haut et nous traversons tout en vivant déjà du royaume de Dieu. Nous n'avons qu'une vie, frères et sœurs. Unis au Christ par le baptême, les croyants participent déjà réellement à la vie céleste du Christ ressuscité. Tranquille. Je répète, parce que c'est trop beau cette phrase. Ce serait trop dommage de passer trop rapidement là-dessus. Unis au Christ par le baptême, les croyants participent déjà réellement à la vie céleste du Christ ressuscité. C'est quoi ta vie? Ben moi, ma vie, c'est... Eh bien, comme je suis croyant, je participe réellement à la vie céleste du Christ ressuscité. Voilà ma vie. Tu es croyant? Ouais, croyant, je suis pas pratiquant. Ah, d'accord. Je suis croyant un peu. T'es croyant? Oui, je suis croyant, c'est-à-dire que je participe réellement à la vie du Christ, à la vie céleste du Christ ressuscité. Philippiens 3:20. Ça vous va comme vie? Mais cette vie demeure cachée avec le Christ en Dieu. Avec lui, il nous a ressuscités et fait asseoir aux cieux dans le Christ Jésus, nourris de son corps dans l'Eucharistie. Nous appartenons déjà au corps du Christ. Lorsque nous ressusciterons au dernier jour, nous serons aussi manifestés avec lui, pleins de gloire. Dans l'attente de ce jour, le corps et l'âme du croyant participent déjà à la dignité d'être au Christ. D'où l'exigence de respect envers notre propre corps, mais aussi envers celui d'autrui, particulièrement lorsqu'il souffre. Eh oui, le corps est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera nous aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ? Vous ne vous appartenez pas. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Il faudrait rajouter un passage de Philippiens. Nous avons des difficultés, nous avons la maladie, nous avons des limites, des faiblesses. N'oublions pas que ce corps de misère, comme dit saint Paul, qui s'en va vraiment à la ruine, ça se disloque de partout. Eh bien, la dislocation, la mort, la corruption, eh bien, ce n'est pas le dernier mot. C'est la résurrection de notre chair qui aura le dernier mot. Amen. Alléluia. En attendant, vraiment, je vous souhaite une très très belle journée à l'écoute de Radio Maria. Merci pour votre présence, votre fidélité. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.